Mercredi, je vous dis pas bonjour et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est en compagnie de Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Et de Martine. Bonjour Martine.
Bonjour tout le monde.
Et enfin Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Roland.
Fanny, on commence ces projections avec Parvana.
C'est le premier film réalisé en solo par Nora Twomey, qui avait co-réalisé Brendan et le secret de Kells et supervisé l'écriture du Chant de la mer, deux magnifiques films d'animation. Et pour cela, elle adapte le best-seller de Deborah Ellis. Parvana a été primée deux fois au Festival international du film d'animation d'Annecy et nommée aux Oscars cette année. En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est jeté en prison, accusé d'avoir enseigné à des femmes, et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagné d'un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent, ni même acheter de la nourriture. Mais elle devra malgré tout subvenir aux besoins de sa famille. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon, risquant à tout moment d'être démasquée. Elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. L'histoire de Parvana se passe en 2001, juste avant l'intervention militaire des États-Unis contre les talibans. Le film apporte un éclairage sur la violation des droits fondamentaux de nombreuses femmes et filles, notamment l'accès à l'éducation, la liberté de penser et l'égalité des sexes, et sur la façon dont la peur et le pouvoir exercé par quelques personnes pouvaient à l'époque constituer une menace pour la survie et la liberté des populations. Parvana traite tout autant du sujet délicat de l'enfance en temps de guerre que de la condition des femmes sous une dictature islamiste, mais parvient aussi à susciter un espoir constant à travers l'esprit de résistance sans faille de sa jeune héroïne. Le choix de l'animation permet également d'établir une certaine distance avec la dureté du récit. C'est un film à découvrir absolument, avec une très belle animation, conseillé plutôt à partir de 10-11 ans, quelques séquences pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, bien que la violence soit le plus souvent hors champ.
Parvana à découvrir au cinéma, il est ce jour dès 18h ou bien le vendredi 13 juillet également à 18h. Martine, on poursuit avec Trois visages en version originale sous-titrée.
C'est un film dramatique réalisé par l'Iranien Jafar Panahi qui a reçu le prix du scénario à Cannes cette année. C'est avec Jafar Panahi, Behnaz Jafari et Marzieh Rezaieh. C'est l'histoire d'une célèbre actrice iranienne qui reçoit la vidéo assez troublante d'une jeune fille qui veut être comédienne et qui implore son aide pour échapper à sa famille conservatrice. Alors elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, à l'aider à comprendre s'il s'agit d'une manipulation. Ensemble, ils vont partir, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du nord-ouest de l'Iran, où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale. Alors, dans les conditions de tournage évidemment difficiles, puisque le réalisateur nargue les interdictions de voyager et de tourner qu'il doit subir depuis quelques années, le réalisateur met dans ce road movie de la fantaisie, de la poésie, et ce à quoi il nous avait habitué déjà, vous rappelez, dans Taxi Téhéran. Et on ressent malgré tout l'amour qu'il exprime pour son pays et ça permet d'approcher la gravité de son constat, la réalité des coutumes patriarcales, des contraintes que vivent les femmes dans son pays à travers trois générations de femmes et à travers trois merveilleuses actrices. Et on ne peut être que séduit et touché par ce mélange d'intelligence, d'humour et de simplicité avec lequel il exprime la nécessité de parler de son pays et de devoir le faire avec du cinéma. Derrière la caméra, enfermé dans sa voiture, il retrouve la liberté et il parle de liberté, à la fois malicieux, bienveillant, dans une fiction qui ressemblerait plutôt à un documentaire, évoquant souvent, cependant, une incertitude quant à l'issue vitale de certaines situations. C'est un film qui parle de l'essentiel et qu'évidemment, à voir, ça, c'est une évidence.
Trois visages en version originale sous-titrée ce mercredi 11 juillet à 20h au cinéma. Il est, attention, ça fait peur, sans un bruit, Fanny.
Le concept de départ est simple, comme dans nombre de films d'horreur, mais particulièrement efficace ici, ce qui en fait un slasher minimaliste réussi. Dans un futur proche, le monde est ravagé par des monstres invincibles, aveugles et sensibles au moindre bruit. La famille Abbott, dont les parents sont interprétés par Emily Blunt et John Krasinski, aussi réalisateurs du film, tente de survivre malgré la menace de ces créatures dont ils ne savent rien et qui semblent les encercler en permanence, prêtes à surgir à chaque instant, rendant la moindre activité extrêmement risquée, puisqu'au moindre bruit, ils peuvent se faire attraper par les vilaines bébêtes, ce qui installe une tension croissante tout au long du film. Comment les Abbott ont pu survivre à ce fléau qui a dévasté presque toute la planète, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est grâce à l'amour qu'ils se portent. Et puis aussi un peu grâce à leur incroyable ingéniosité, mais c'est moins poétique. Sans un bruit s'inscrit dans la lignée des films d'angoisse innovants qui utilisent astucieusement le son et la musique afin de créer une atmosphère, de renforcer le trouble et de maintenir un suspense insoutenable. Mais l'idée était aussi d'innover en faisant du son un personnage du film à part entière. Cela dit, il n'est finalement pas si innovant que ça, notamment dans sa deuxième partie. Malgré quelques défauts, le film offre une tension maximale. Agrippez-vous au fauteuil, c'est parti pour une véritable expérience sensorielle super angoissante. Et c'est interdit aux moins de 12 ans.
Attention, ça fait peur. Sans un bruit, c'est aujourd'hui au cinéma. Il est dès 22h ou bien le lundi 16 juillet à 22h15. Fanny, on poursuit avec Les Indestructibles, le deuxième volet.
On l'attend depuis 14 ans et elle est enfin là, la suite des Indestructibles. Et elle cartonne au box-office américain puisque c'est le meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation aux États-Unis. Une telle attente pourrait nous conduire à une grosse déception en découvrant ce nouvel opus, toujours écrit et réalisé par Brad Bird. Eh bien non, le réalisateur de Ratatouille et du Géant de Fer voulait prendre son temps pour nous offrir un film à la hauteur. On retrouve donc la famille de super-héros où on l'avait laissé il y a 14 ans. Monsieur Indestructible, Elastic Girl, Violette, Flèche, Jack-Jack et Frozone. Ils sont tous là. La famille est réduite à vivre dans un motel, leurs derniers exploits n'ayant pas remporté l'unanimité dans l'opinion publique. Mais cette fois-ci, les rôles ont changé. Bob, alias Monsieur Indestructible, s'occupe du foyer, non sans mal, pendant qu'Elastic Girl court après les méchants. Comme les Indestructibles 2 débutent juste après les événements du premier film, l'esthétique demeure la même avec un univers rétro-futuriste, mais elle a été améliorée grâce aux avancées technologiques réalisées depuis. Elles ont permis d'obtenir un rendu plus proche de ce qui était voulu dans les dessins originaux. Le film atteint un très haut niveau de qualité d'animation, avec de très belles textures et lumières, de superbes décors. Les thèmes abordés ont eux aussi évolué avec leur temps, que ce soit au niveau de la place de la femme ou du rapport aux écrans, deux enjeux, de notre société actuelle. S'il fallait reprocher une chose au film, c'est son manque d'originalité au niveau du scénario, la trame étant assez proche de celle du premier Indestructible, mais le feu d'artifice de gags et les scènes d'action palpitantes nous le font vite oublier, et notamment avec le personnage de Jack-Jack qui nous offre des scènes hilarantes. Brad Bird nous offre un deuxième volet des Indestructibles, dynamique et drôle, qui a les moyens de rivaliser avec le premier et qui ne devrait pas décevoir ses fans. Si les Indestructibles 2 a une lecture plus politique, il garde l'âme du précédent, qui mélangeait à la perfection films familial et films de super-héros. Un film pour toute la famille, conseillé plutôt à partir de 8 ans.
Les Indestructibles, le deuxième volet, à découvrir ce jeudi 11 juillet dès 17h30, le dimanche 15 juillet à 17h30, le lundi 16 juillet à 20h, ou bien le mardi 17 juillet dès 16h. Fanny, on poursuit avec Bégassine.
C'est le retour de l'héroïne de la bande dessinée de Jacqueline Rivière et Joseph Pinchon. Bécassine, candide et généreuse, la jeune Bretonne qui a accompagné des générations de lecteurs, mais aussi provoqué la colère d'indépendantistes bretons qui s'opposent à la vision méprisante et condescendante des servantes bretonnes exilées à Paris et qui ont appelé à boycotter le film dans les salles de cinéma de Bretagne. Et tout cela sans avoir vu le film, que je n'ai pas vu non plus, mais qui semble plutôt donner au personnage une dimension plus forte, inventive et poétique, tout en conservant son côté niais. Dans le film, Bécassine n'est ni bête ni bretonne, comme le précise Bruno Podalides qui a réalisé le film. On découvre l'enfance solitaire de Bécassine en guise de prologue. Adulte, sa naïveté d'enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris, et alors qu'elle est en chemin, la jeune femme interprétée par Emmeline Bayard croise la route de la marquise de Grantaire jouée par Karine Viard et accepte de devenir nounou de la petite Loulotte, bébé adopté par la marquise qui va bouleverser sa vie. Elle en devient donc la nourrice et une grande complicité s'installe entre elles. Alors que tout le monde semble heureux et que tout va à merveille, les dettes s'accumulent et l'arrivée d'un marionnettiste grec interprété par Bruno Podalydès lui-même, peu fiable, ne va rien arranger. Heureusement, Bécassine est là avec son inventivité sans limite. C'est la troisième fois que l'on retrouve l'héroïne de BD créée en 1905 à l'écran. Bruno Podalydès a choisi de se baser sur des scénettes ou vignettes et de ne pas adapter un album en particulier. Il en fait un film burlesque, poétique et léger, adressé aux enfants mais aussi aux adultes qui ont su garder leur âme d'enfant.
Bécassine à découvrir ce jeudi 12 juillet dès 20h au cinéma Élé, ou bien le mardi 17 juillet à 18h au Ocean 8. Olivier, c'est pour la suite au cinéma Élé.
Sorti le 13 juin dernier, c'est une comédie, un film policier de Gary Ross d'1h50 avec Sandra Bullock, Kate Blanchett ou Anne Hathaway. La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d'une équipe de pros de l'arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans. Au niveau des critiques, 5,5 sur 10 et les critiques sont plutôt bonnes.
Ocean 8 à découvrir ou à redécouvrir ce jeudi 12 juillet dès 22h. Olivier, on poursuit avec Désobéissance en version originale sous-titrée.
Également sorti le 13 juin dernier, c'est un film d'1h54 et c'est une romance réalisée par Sébastien Lelio avec Rachel Weisz et Rachel McAdams. Une jeune femme juive orthodoxe retourne chez elle après la mort de son père, mais sa réapparition provoque quelques tensions au sein de la communauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sentiments qu'elle éprouve à son égard. Au niveau des critiques, 6,4 sur 10 et les critiques sont bonnes.
Désobéissance en version originale sous-titrée ce vendredi 13 juillet dès 20h. Fanny, on poursuit avec Mes Frères.
C'est une histoire de famille créée en famille, puisque Bertrand Guéry a commencé à écrire le film avec son frère Thomas, comédien-danseur, puis reprend l'écriture avec sa compagne Sophie Davou et entraînera aussi ses enfants dans l'aventure en tant qu'acteur dans le film. Deux frères, anciens rockers, vivent désormais à l'Île-Dieu après avoir eu une carrière sur la scène rock indé à la fin des années 90. Eddie s'est réfugié dans le mutisme depuis 10 ans après un accident, tandis que son frère, Rocco, père de Simon, alcoolique, aigri et assez invivable pour son frère et son fils, se voit devenir de plus en plus prisonnier de son corps à cause de la maladie de l'homme de pierre dont il est atteint. Un jour, leur sœur Lola réapparaît dans leur vie et les langues vont se délier, les secrets vont peu à peu être dévoilés. Les habitants de l'Île-Dieu ont été très impliqués dans le tournage du film pour la logistique, la figuration, la fanfare de Saint-Hilaire, le club de twirling. L'Île-Dieu, c'est plus qu'un décor, c'est aussi un personnage du film. Et elle est d'ailleurs très bien filmée. Malgré quelques maladresses, le film est touchant, il y a des scènes super belles, il est magnifié. Même si c'est un sujet grave qui est traité, avec un fond de non-dit, la maladie de Rocco et la mort qui n'est jamais très loin, la musique donne lieu à des scènes pleines de vie et des moments vraiment très joyeux. D'ailleurs, Bertrand Guéry a plutôt voulu en faire une ode à la vie. Et puis en allant voir ce film, vous faites une bonne action, puisque la moitié des bénéfices seront reversés à la recherche sur la maladie de l'homme de pierre.
Mes frères, cette semaine au cinéma, il est deux diffusions. Le samedi 14 juillet dès 18h ou bien le dimanche 15 juillet dès 22h. Olivier, on poursuit avec 3 jours à Quibon en version originale sous-titrée.
Sorti le 13 juin dernier, c'est un film d'1h55 et c'est un drame réalisé par Émilie Attef avec Marie Baumer et Charlie Hübner. En 1981, pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebec et le journaliste Michael Jours du magazine allemand Stern pendant sa cure à Quiberon. Au niveau des critiques, 6,3 sur 10 et les critiques sont assez bonnes.
3 jours à Quiberon en version originale sous-titrée ce samedi 14 juillet dès 20h. Martine, la suite de la programmation au cinéma, elle est avec Jurassic World Fallen Kingdom.
C'est réalisé par le catalan Juan Antonio Bayona avec Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Ralph Spall et Justice Smith. Et ça fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leur enclos et ont détruit le parc à thème et le complexe de luxe Jurassic World. L'île Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Eh bien, Owen et Claire vont s'organiser pour sauver les dinosaures, ceux qui restent de l'extinction. Alors, Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces grandes créatures, s'en fait une mission. Arrivant sur l'île alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration dangereuse pour toute la planète, du jamais vu depuis la préhistoire. Alors on me dit que c'est superbe, que c'est magnifiquement filmé, qu'on a droit à des scènes intenses et spectaculaires, à couper le souffle, sous une pluie de lave, l'émotion en plus, les grosses bébêtes sont géniales, les acteurs y mettent tout leur cœur. Mais il y a évidemment un mais, malgré tout ça, il y a une déception parce que le scénario est vraiment habituel et simpliste, bourré d'incohérences. Ces deux gentils scientifiques idéalistes amoureux des dinosaures sont manipulés par des méchants hommes d'affaires mégalomanes qui voudraient faire encore plus d'argent en s'emparant des dinosaures. C'est le côté philosophique et écologique, ce qui est vraiment fort louable. Alors, on va évidemment le voir pour le fantastique, pour la mise en scène, pour l'aventure, pour les dinosaures, pour les frissons, pour les grosses bébêtes, les terreurs de l'enfance. Et on oublie, on est indulgent pour la faiblesse du scénario. Ça mérite le détour, certainement, si on fait partie du comité de soutien des dinosaures et de la nature.
Jurassic World Fallen Kingdom à découvrir ce samedi 14 juillet dès 22h. Olivier en poursuit avec Hubert Reeves.
Sorti le 23 mai dernier, c'est un documentaire d'1h31 réalisé par Yolande Cadrin-Rossignol. Autour d'Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent. La biodiversité aujourd'hui est menacée. Si certains humains sont à l'origine de la crise, d'autres, de plus en plus nombreux, s'y attaquent à bras le corps et créent des solutions. Au niveau des critiques, 7,4 sur 10 et les critiques sont très bonnes.
Hubert Reeves, le dimanche 15 juillet, dès 20h. Martine, on poursuit ses programmations au cinéma avec Largué.
Eh bien, c'est une comédie de Héloïse Lang avec Miu Miu, Camille Cotin et Camille Chamou. Ces deux sœurs, Rose et Alice, qui ne se ressemblent vraiment pas puisque l'une est hyper libre et rock'n'roll, l'autre raisonnable et responsable, elles ne sont jamais d'accord, sauf quand il s'agit de remonter le moral de leur mère, que leur père vient de quitter pour une jeunesse. Alors, il y a quelques bonnes idées, des personnages loufoques, des situations absurdes, des actrices qu'on aime bien et qui sont bien choisies. Alors, évidemment, bon, c'est pas un film extrêmement original. C'est sauvé par la fin. La fin est pas mal du tout, donc je vous en dis pas plus. Vous allez aller le voir. C'est amusant, bon, je dirais,
Une bonne comédie.
C'est une gentille comédie, voilà.
Largué le lundi 16 juillet dès 18h. Fanny, on va finir ses projections avec Une année polaire en version originale sous-titrée.
Pour son premier poste d'instituteur, Anders choisit l'aventure et les grands espaces. Il part enseigner au Groenland, à Tinitekilak, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce que Anders avait imaginé. Pour s'intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes. Dans Une année polaire, on retrouve l'esprit des précédents films de Samuel Collardet. C'est un film très documentaire, avec des acteurs non professionnels jouant leur propre rôle, qui se passe en milieu rural, au sein d'une communauté isolée, avec un rapport fort à la nature. Après plusieurs voyages au Groenland, l'idée est venue de filmer l'instituteur de la petite communauté, mais à ce moment-là, c'était une institutrice proche de la retraite et le personnage ne collait pas vraiment à ce que le réalisateur et le producteur voulaient montrer. Par chance, elle allait partir et être remplacée par un jeune instituteur, Anders, rendant le dispositif plus intéressant. Un étranger arrive dans le village, doit y trouver sa place et se confronter à une culture différente. C'est ainsi qu'Anders est devenu le personnage principal du film, dont les aventures sont à la fois basées sur les siennes et celles d'autres Danois partis enseigner au Groenland. Même si les personnages du film sont réels, le réalisateur ne s'interdit pas la scénarisation et la mise en scène. Alors qu'Anders vient pour transmettre des compétences académiques aux enfants de la communauté, il va se heurter à la réalité et au fait que ce qu'apprennent les enfants au Danemark est bien loin de la réalité de ce petit village du Groenland et que si les enfants de la communauté jouent le jeu de l'école officielle afin de s'insérer dans le monde moderne, cela les oblige à quitter leur territoire à plus ou moins long terme pour faire des études ou trouver un travail, et les coupe de la communauté et de ses traditions. C'est un très joli conte documentaire avec des paysages magnifiques et magnifiquement bien filmés, un film qui fait du bien à découvrir, d'autant plus que la séance sera suivie d'une rencontre avec Catherine Payet, passionnée du Groenland, co-scénariste du film et des trois précédents longs-métrages de Samuel Collardet et originaire des Sables d'Olonne.
C'est à découvrir le mardi 17 juillet dès 21h pour Une année polaire en version originale sous-titrée. Merci Fanny, rendez-vous en grande forme dès la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Merci Martine, rendez-vous également en grande forme dès la semaine prochaine.
À bientôt.
Et merci Olivier, à très bientôt.
À bientôt.